de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour aujourd'hui, le 6 octobre 2019, pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Chers auditeurs, maintenant nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Voici le journal d'aujourd'hui. On commence par le titre. L'Indonésie est le pays partenaire du salon de Hanovre 2020 ou Hanover Messe. La coopération économique est une priorité des relations entre l'Indonésie et l'Allemagne, a déclaré le ministre Luhut. Voice of Vietnam ouvre un bureau de représentation à Jakarta. L'artisanat des pierres fossiles de l'Ebar pénètre sur le marché étranger. L'Octobre aura un tour de camping glamour de 500 milliards de roupies. Chers auditeurs, voici le journal complet. L'Indonésie a été choisie comme pays partenaire du Salon de la technologie industrielle de Hanovre 2020 ou Hanover Messe à Hanovre en Allemagne. Lors de la conférence de presse et de lancement du Messe 2020 à Hanovre à Jakarta récemment, le premier ministre de Basse-Saxe, l'état de la ville accueillant l'exposition, Stephen Weil a déclaré que l'Indonésie a été choisie comme pays partenaire en raison de son fort développement en Asie du Sud-Est. Le salon de Hanovre est le plus grand salon de l'innovation technologique au monde depuis 70 ans. Nous avons des relations étroites avec des pays importants et sans aucun doute, l'Indonésie est l'un des pays les plus importants au monde qui continuera de croître au cours des prochaines années. Stephen Weil a ajouté que l'Indonésie avait l'occasion de présenter ses innovations, ses idées et son potentiel par le Salon de Hanovre 2020. Dans le même temps, le ministre de l'Industrie indonésien, Erlangga Hartarto, participant à la conférence de presse, a déclaré qu'Hanovre était également un moyen d'approfondir la coopération entre les deux pays dans le domaine économique, l'un d'entre eux est l'industrie 4.0, car l'industrie 4.0 est née à Hanovre en 2011. Depuis cet événement, l'Indonésie a lancé le programme Making Indonesia 4.0, lors du salon qui se tiendra du 20 au 24 avril 2020, l'Indonésie va présenter 5 secteurs prioritaires, à savoir l'automobile, l'électronique, le textile, les aliments et les boissons. La coopération dans le domaine économique est une priorité pour les relations indo-allemandes. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut B. Panjaitan, dans son allocution qui représentait le gouvernement de la République d'Indonésie en tant qu'invité d'honneur de la célébration de la journée de l'unification allemande à Jakarta jeudi dernier. Dans ses remarques, le ministre Luhut a déclaré que l'Indonésie et l'Allemagne ont les bonnes relations amicales depuis très longtemps. La coopération à l'économie et la coopération au développement sont des secteurs clés dans cette relation. Nos chiffres commerciaux continuent à montrer une tendance positive. En 2018, l'Allemagne était le principal partenaire commercial de l'Indonésie. En outre, dans la même année, l'Allemagne était le top 5 des investisseurs européens en Indonésie, avec une valeur totale de 280 millions de dollars américains. Nous espérons que les chiffres du commerce et de l'investissement continueront à augmenter. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes Luhut B. Panjaitan a expliqué que l'Indonésie et l'Allemagne avaient également établi les coopérations dans le domaine de la formation professionnelle et de l'énergie durable, ainsi que la coopération maritime qui était très importante. Le bureau de représentation de la radio du gouvernement vietnamien, Voice of Vietnam, a été officiellement ouvert par le directeur général de Voice of Vietnam, Nguyen Te Ky, à Jakarta récemment. L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a déclaré dans ses remarques que l'Indonésie et le Vietnam étaient deux pays qui avaient des relations traditionnelles depuis longtemps. Les deux pays ont des similitudes culturelles et historiques en ce qui concerne leur indépendance et ils sont actifs dans les forums internationaux. Selon Pham Vinh Quang, l'ouverture du bureau de représentation de la Voix du Vietnam à Jakarta a constitué un nouveau pas en avant dans le renforcement de la coopération dans divers domaines. L'ouverture du bureau de représentation de Voice of Vietnam à Jakarta sera un nouveau progrès pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie. Elle renforce la information sur les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Indonésie et aussi sur l'ASEAN et la coopération régionale. Je pense que le bureau de la VOV ou Voice of Vietnam sera un élément clé de la promotion du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Indonésie. L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a déclaré qu'à la fin de l'année, l'ambassade du Vietnam en Indonésie collaborerait avec des agences vietnamiennes et indonésiennes pour organiser le 60e anniversaire de la visite du président Ho Chi Minh en Indonésie en 1959 et de la visite du président Sukarno au Vietnam en même année. La commémoration sera animée par des ateliers et des expositions de photos à Jakarta, Yogyakarta et Bali. L'ouverture du bureau de représentation de Voice of Vietnam a été assistée par l'ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, le secrétaire général adjoint de l'ASEAN pour la politique et la sécurité, Huang Antoine, direction générale de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique, du ministère indonésien des Affaires étrangères, Desra Percaya, des représentants de Radio République Indonésia et Voice of America. La fabrication de pierres fossiles dans la région de Lebak à Banten pénètre sur des marchés étrangers tels que le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, l'Italie et les États-Unis. Cela a été dit par Mulyanto, un artisan du district de Chimarga Lebak vendredi. Les produits artisanaux en pierres fossiles principalement demandés par les marchés étrangers sous forme de caisses, de tables, de cendriers à cigarettes, de banten miniatures, de souvenirs et de statues. Les pierres fossiles sont exportées vers un certain nombre de pays, entre autres la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et des pays du Moyen-Orient. Les produits d'artisanat en pierre d'art de Lebak sont uniques, comparés au bambou ou au bois. Dedi Rahmat, le directeur de l'Agence de l'industrie et du commerce de Lebak a déclaré que son parti encourageait la fabrication de pierres fossiles dans ses unités, réparties dans les districts de Sajira, Rangkas Bitung, Chimarga, Maja, Cipanas et Curug Bitung. Ces zones sont des centres de produits en pierres fossiles car les matières premières se trouvent dans les forêts et les rivières. La destination touristique de Lac Toba, dans le nord de Sumatra, aura un site de camping de luxe, ou un camping glamour, ou abrégé en glamping, dont l'investissement atteint 500 milliards de roupies. Le ministre du Tourisme Arif Yahya a déclaré vendredi, après la réunion de coordination au ministère des Affaires maritimes et de la mer, que l'inauguration du projet de CAM Deluxe devait avoir lieu le 14 octobre. Le CAM Deluxe, selon Arif, sera fixé à un prix supérieur, environ 1 000 jusqu'à 2 000 $ américains par nuit. L'investisseur qui construit le CAM Deluxe est un investisseur privé local. En plus de ces investisseurs, plusieurs autres investisseurs construiront également des hôtels 5 étoiles dans la région. Les investisseurs sont des entreprises ayant collaboré avec des chaînes hôtelières internationales. Le ministre de la Coordination des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le gouvernement invitait les investisseurs à participer au développement du lac Toba. Selon Luhut, le développement des infrastructures dans la région du lac Toba sera réalisé en parallèle. La construction comprend les routes, l'électricité, la fibre optique, les stations d'épuration des eaux usées et la fourniture d'eau potable. Chers auditeurs, voilà les journaux d'aujourd'hui. La mise au point de la semaine d'aujourd'hui, intitulée On a inauguré les représentants du peuple de la période de 2019 à 2024, au total de 711 membres de l'Assemblée. L'Assemblée consultative du peuple, ou en indonésien Majelis Permusyawaratan Rakyat, ou abrégé en MPR, de la période de 2019 à 2024, composée de 575 membres de conseil représentatif du peuple, ou en indonésien Dewan Perwakilan Rakyat, ou abrégé en DPR, et de 136 membres du Conseil représentatif régional, ou en indonésien Dewan Perwakilan Daerah, ou abrégé en DPD, a été officiellement inauguré le mardi 1er octobre. La cérémonie d'inauguration a débuté par la lecture du décret présidentiel sur inauguration de l'adhésion au DPR par le secrétaire général de DPR indonésien, Indra Iskandar. L'inauguration a été marquée par la sermentation ou la promesse des nouveaux membres du MPR qui a été guidée par le président de la Cour suprême, H.M. Hatta Ali. Comme d'habitude, avant d'être élu dirigeante définitive du DPR, la séance plénière était dirigée par un membre du DPR qui est la plus âgée et la plus jeune. Le dirigeant de l'audience de la plus âgée à 80 ans, et Abdul Wahab Dalimonte, du Parti démocrate. Et Hilary Brigitte Lassoud, du Parti Nasdem, est la plus jeune dirigeante âgée de 23 ans. Tous les deux ont dirigé la séance plénière dans laquelle l'un des ordres du jour était de transmettre la mémoire de DPR par les dirigeants de DPR de la période 2014 à 2019 à la direction temporaire de DPR. Ensuite, la même procession a eu lieu pour l'inauguration des membres du Conseil des représentants régionaux, ou en indonésien Dewan Perwakilan Daerah, ou abrégé en DPD, de la République d'Indonésie. Présent comme dirigeant de la session intérimaire de la plénière DPD, le membre le plus âgé, Sabam Sirait, de la circonscription électorale de DKI Jakarta, âgé 82 ans, et Jialika Maharani, membre de Sumatra du Sud, a 22 ans. Lors de la séance plénière, le politicien du PDIP, Puan Maharani, a été nommé président du DPR de la période 2019 à 2024. Donc, Puan devient la première femme à occuper le poste du président du DPR. Puan a été inauguré président du DPR avec 4 vice-présidents, à savoir Aziz Syamsuddin de la faction Golkar, Rahmat Gobel de la faction Nasdem, Sufmi Dasko Ahmad de la faction Gerindra et Muhaimin Iskandar de la faction PKB. Lors de l'élection du président du Conseil représentatif régional, Lanyala Mataliti a été élue présidente par un vote qui a été choisi par 134 voix au total. Lanyala est candidate représentative de l'Indonésie occidentale 2. Le lendemain, jeudi 3 octobre, les membres de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, ont élu leur président en séance plénière. Bambang Susatyo, homme politique du parti Golkar, a finalement été élu à l'unanimité président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien pour la période 2019 à 2024, après avoir été unanimement soutenu par toutes les factions, à savoir les 9 factions du MPR-RI et du groupe du DPD-RI. Après avoir été élu président du MPR, Bambang Susatyo, dans son discours, espérait que le MPR pourrait devenir une institution ouverte et accommodante pour le développement de la société, y compris les efforts visant à modifier la constitution. Bambang espérait également que le MPR deviendrait un foyer national où seraient déployés les efforts visant à mettre en œuvre l'idéologie Pancasila et la constitution de 1945. Voilà la mise au point de la semaine.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 6 octobre, la guerre de Yom Kippour. La guerre de Yom Kippour est connue sous le nom de guerre du Ramadan ou de guerre d'octobre. Était une guerre qui avait lieu du 6 au 26 octobre 1973 entre les États d'Israël, qui attaquaient par une coalition des pays arabes dirigée par l'Égypte et la Syrie. Cette guerre est terminée par la défaite et la destruction totale des pays arabes. Le 6 octobre 1973, au jour de Yom Kippour, la plus grande fête des Juifs, ce jour-là coïncidait également avec le mois de Ramadan pour les musulmans. Les Syriens, les Libyens et les Égyptiens envahissent l'Israël. Le nombre de l'armée d'invasion est très grand. L'Égypte a pris d'expérience de la guerre de 6 jours en 1967 sur la faible défense aérienne. Alors, à ce moment-là, les 3/4 de la force aérienne égyptienne ont été totalement détruits, tandis que la Syrie est encore capable de fournir une résistance. Quand il s'est rendu compte que la flotte de chasse égyptienne utilise toujours une grande partie de la technologie ancienne, l'Égypte a finalement mis en place une stratégie de parapluie de l'air, utilisant des missiles et des canons anti-aériens qui se déplacent dans une gamme combinée. Le résultat est que cette stratégie a réussi parce que l'armée de l'air israélienne est finalement débordée et même beaucoup d'entre eux sont devenus des victimes parce qu'ils ont essayé de pénétrer dans le net de la défense aérienne. Le 6 octobre 1981, le président égyptien Anwar Sadat a été tué. Le grand général de Mohamed Anwar el-Sadat est un soldat et un politicien égyptien. Il a été le troisième président de l'Égypte dans la période du 15 octobre 1970 jusqu'à ce qu'il ait été tué au 6 octobre 1981. Par le monde occidental, il est considéré comme un peuple très influent en Égypte et au Moyen-Orient dans l'histoire moderne. En 1964, après avoir occupé divers postes dans le gouvernement égyptien, il a été élu par le président Gamal Abdel Nasser pour occuper le poste de vice-président. Il a occupé ce poste jusqu'en 1966 et 1969, jusqu'en 1990. Après la mort de Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat et Hafez al-Assad ont mené l'Égypte dans la guerre de Yom Kippour contre l'Israël pour répandre la péninsule de Sinaï que l'Israël a contrôlée pendant la crise du canal de Suez en 1956 et la guerre de 6 jours. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi.
Wih, kemana-mana tinggal minta anter deh. Duduk santai sambil denger musik sama teman-teman gue. Gak kepanasan lagi, wih dingin. Pengen punya rumah.
Gedong.
Lengkap dengan pelayan. Perabotan Lux plus kolam renang.
Ini film loh.
Mau ini itu tinggal perintah. Hidup serasa di istana. Terus kalau kepanasan gue ayak teman-teman gue nyebur deh. Basah. Andai aku jadi orang kaya.
Gue temen lo kan, Pia.
Andai gak usah pakai kerja.
Bisa gak ya?
Gak bisa.
Andai aku jadi orang kaya.
Lengkap
dengan pulau pribadi yang semua orang nggak boleh masuk kecuali yang baik aja sama gue. Wih, gue ajak teman-teman gue bikin beach party tiap malam, bakar ikan, renang, surfing, mancing, pokoknya asik-asik dah.
Ajak dong.
Pengen punya uang
banyak,
yang depositonya bisa buat 7 turunan.
Bagi dong.
Jadi kan gue nggak pusing-pusing lagi mikirin duit. Anak, cucu, cicit gue bisa hidup senang terus. Kalau kekurangan uang, tinggal telepon gue aja. Andai aku jadi orang kaya.
Gue jadi temen lo ya.
Ya, ya. Andai gak usah pakai kerja. Andai
Atau ngayal mulu.
Jangan protes, gue jadi orang kaya.
Voilà la chanson intitulée « Andai aku jadi orang kaya » ou en français « Si j'étais riche » chantée par Opie Andaresta. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur l'onde courte de 3,3-5 kHz. La rubrique suivante, voici mon Indonésie, dont le titre est « Le tour de Banyuwangi Ijen est entré au meilleur standard mondial ». La fin des 4 étapes du championnat de course cycliste de Tour international de Banyuwangi Ijen 2019, un certain nombre de commissaires ou juges de la Fédération mondiale de course de vélo ont été très impressionnés par la mise en œuvre de la course cycliste qui est entrée dans sa 8e année. L'un d'eux a été révélé par le commissaire australien Peter Tomlinson, qui avait déjà participé 2 fois à cet événement. Selon lui, la compétition organisée par le gouvernement du district de Banyuwangi se déroulait très bien, pouvant même faire appel à des coureurs internationaux dont la composition était très complète et qui provenaient de 5 continents. Il a dit que c'était une course très merveilleuse et d'après lui, cet événement fait partie des 10 meilleurs du monde car il respecte de plus en plus les meilleurs standards mondiaux. La même chose a été dite par Karen O'Shallaghan, commissaire australienne. Karen, qui a visité à Banyuwangi pour la première fois, a été impressionné par l'enthousiasme des résidents qui ont si enthousiasmé d'accueillir les coureurs sur chaque piste. Elle a déclaré, les enfants et les autres résidents étaient si enthousiastes d'accueillir sa présence qu'elle rencontrait rarement lors de courses de vélo dans d'autres pays. Elle a dit qu'elle ne s'ennuierait pas à venir à Banyuwangi. Outre les commissaires, les coureurs qui se battent donnent également un coup de pouce à l'organisation. Comme l'a déclaré le vainqueur du Tour international de Banyuwangi IGN 2019, Robby Hacker, le coureur japonais de l'équipe Ukyo, a déclaré que la course à Banyuwangi était très spéciale. En plus d'être un champion, l'événement était bien conçu et organisé. Même sur la route, beaucoup de gens ont encouragé aux coureurs. Il a dit que Banyuwangi était un endroit agréable à visiter, y compris pour participer à une course de vélo ici, car la course était bien conçue et organisée. C'était l'une des meilleures courses qui a participé. Le Tour international de Banyuwangi IGN 2019 est un agenda annuel de course cycliste 2.2 tenu par Banyuwangi depuis 2012. Cet événement a été inscrit à l'agenda officiel de la compétition de la Fédération mondiale de course de vélo, à laquelle participent de nombreuses équipes internationales et nationales. Cette année, le Tour international de Banyuwangi IGN 2019 a été rejoint par 19 équipes composées de coureurs de 23 pays venus de 5 continents. Duo de coureurs européens maîtrisant le 4e podium de l'étape du Tour de Banyuwangi IGN 2019, qui a parcouru 129,9 km de Purwoharjo à la région touristique du Mont Ranti, Patuding IGN, samedi dernier. Le français Thomas Lebas, le cycliste Kinan de l'équipe japonaise, a réussi à terminer en tête dont le temps record était de 3h47 minutes 51 secondes. La deuxième position est le coureur iranien Amir Kolahdozak, le cycliste Taiyuan Miyoge de l'équipe chinoise et de Benjamin Parade d'Espagne qui a renforcé l'équipe japonaise Ukyo pour devenir la troisième. Thomas Lebas a déclaré « L'itinéraire à IGN était l'une des montées les plus lourdes d'Asie, dont sa victoire est une chose très magnifique. De plus, cette année, il a gagné deux fois ici. » Tandis que le meilleur coureur international du Tour de Banyuwangi IGN 2019 a été mené à bien par Ayman Cahyadi, l'équipe cycliste sur route PRN, dont le temps était de 13h, 13 minutes, 15 secondes. Tandis que Muhammad Abdurrahman et Agung, l'équipe cycliste sur route KFC, ont remporté le deuxième et troisième position.
Semua hanya mimpi.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Rida Sitadewi, dont le titre est Kusadari. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Aujourd'hui, nous vous présentons le riz Bekeport, un plat spécial de Kutai Kartanegara, la province du Kalimantan de l'Est. Chers auditeurs, Kalimantan de l'Est était autrefois célèbre pour le royaume de Kutai, qui avait atteint son âge d'or. L'un des vestiges de ce royaume, dont l'une est la spécialité culinaire, est délicieuse. L'un des aliments que nous pouvons encore manger jusqu'à présent est le riz Bekeport. Dans le passé, le riz Bekeport était le repas pour la famille royale. Seule la famille royale peut manger de ce plat. Mais maintenant, tout le monde peut manger de ce riz Bekeport. Le riz Bekeport, la spécialité de Kalimantan de l'Est, est le riz cuit sur le charbon de bois chaud. Les ingrédients sont comme des feuilles de basilic, des piments, du poisson frit séché qui a été broyé et un peu de jus de citron vert. Puis on les met dans le kenjang, le candil ou la casserole. Tous les ingrédients sont mélangés dans du riz à moitié cuit qui est toujours chaud, après avoir brassé jusqu'à ce que le riz Bekeport soit bien reparti et cuit, il est prêt à manger. Habituellement, on sert du riz Bekeport avec des légumes gangan Assam Kukar qui sont traités avec la tête de poisson, les patates douces et la sauce roi. Cette sauce roi, ou en indonésien sambal raja, épicée et appétisante, se compose de 6 types de sauce ou sambal qui est ensuite mélangé. Les 6 types de sambal sont sambal aubergine sautée, haricolon, ciboulette, œufs à la coque, poisson de Arouane, crevettes à la coque et mangue de Kueni. Chers auditeurs, en plus du sambal raja ou la sauce de roi, le riz Bekeport est bien mangé avec de la viande. Cet accompagnement appelé viande cuite de bumi hangus et la viande avec des sauces de soja. Habituellement, vous pouvez trouver ce riz Bekeport sur des étals dont le prix est 30 000 rupiah. Tandis que une assiette de sambal raja ou la sauce roi en complément du riz Bekeport coûte environ 35 000 rupiah. Chers auditeurs, à son époque, on utilisait du riz Bekeport pour répandre l'islam, car à cette époque, le roi Kutai Kartanegara avait adopté l'islam. Dans le temps passé, on cuisinait du riz Bekeport en l'allumant sur des braises en utilisant du kenjang ou du kundil ou en casserole. Ce processus de tournage s'appelle Bekeport. En juin, on a récité les bénédictions 3 fois. Chers auditeurs, le gouvernement régional du Kalimantan de l'Est tente également de présenter le riz Bekeport comme l'un des fiers plats traditionnels. Afin de populariser ce riz Bekeport aux touristes, le gouvernement régional du Kalimantan de l'Est l'a introduit par une nouvelle création de danse. La danse du riz Bekeport montre comment la tribu traditionnelle du Kalimantan de l'Est transforme les métiers premiers en alimentaires délicieux. Dans la danse, on a également décrit comment les mères transmettent à leurs enfants leur connaissance sur la manière de traiter et de servir le riz Bekeport. chers auditeurs, si vous visitez Kalimantan de l'Est, n'oubliez pas de goûter le riz Bekapor.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Dunia belum berakhir, bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir, bila kau putuskan aku. Wajahku juga jelek-jelek amat, ada yang mau. Kupikir-pikir, lebih baik aku menyingkir. Kupikir-pikir, kupikir-pikir, lala. Dunia belum berakhir, bila kau putuskan aku. Paling-paling juga kalau kamu merasa baik padaku.
Of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je présente des informations sur l'Indonésie Dance 2019, prête à mettre en œuvre. Indonesia Menari ou l'Indonésie Danse est prête à revenir. Après le succès de l'année dernière, simultanément à Jakarta, Bandung, Solo et Semarang, cette année, l'Indonésie Danse sera plus animée grâce à l'ajout de trois nouvelles villes, à savoir Makassar, Medan et Palembang. L'Indonésie Danse est un mouvement de danse ensemble visant à ramener la communauté à la danse traditionnelle de l'archipel. On a emballé la danse dans un concept moderne et amusant, spécialement pour les jeunes enfants. L'événement de cette année aura lieu le 17 novembre. Indonesia Menari ou l'Indonésie Danse est de retour cette année avec une chorégraphie défiante créée par Ufa Sofura. Des milliers de personnes danseront simultanément l'œuvre d'Ufa dans cette ville. Renita Sari Adrian, en tant que directeur du programme de www.indonesiakaya.com a expliqué que l'ajout de la ville peut rapprocher la communauté aux danses traditionnelles présentées de manière moderne. De plus, cela donne à la communauté plus de possibilités de danser ensemble dans une fête festive, l'Indonésie Danse 2019. L'Indonésie Danse 2019 cible cette année environ 6500 participants à cette ville indonésienne. Les participants, comprenant des individus, des studios de danse, des amateurs de danse, des écoles et des universités indonésiennes, danseront ensemble et montreront leur capacité à concourir pour un prix total de centaines de millions. Cette activité présente une forme de danse de masse dont la chorégraphie combine les mouvements de danse traditionnels de l'archipel et la danse moderne. Au cours d'une danse de 4 minutes, les danseurs seront accompagnés par le mélange de chansons régionales arrangées dans une musique moderne. Cette année, www.indonesiakaya.com recrute les jeunes producteurs de musique indonésiens, Jeffin Julian, pour créer la musique d'Indonésie Danse, 6 chansons régionales dont les titres sont Angin Mamiri, Ondel Ondel, Sik Sik Si Batu Manikam, Dek Sangke, Gundul Gundul Pacul et Manuk Dadali. Dans le département de chorégraphie, Ufa Sofura était de nouveau choisie pour devenir la chorégraphe d'Indonésie Menari 2019. Elle a créé un mouvement de danse traditionnelle de manière moderne que tout le monde peut danser. Bon, voilà l'Indonésie en couleur.
Biar sudah lupakanlah saja semua cerita cinta kita. Ya coba, coba lihat memang sudah tiada ada rasa. Ya tak usah lagi kau paksakan agar ku merasa cinta. Ya biarkanlah rasa itu cepat pergi dan berlalu. Ya memang tak bisa kau harapkan lagi ku mencinta. Ya memang rasa rindu itu kini telah hilang, pergi sirna dan berlalu.
Oh, 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 oh.
Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku, memanglah sudah tiada rasa. Biar-biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada antara kau dan aku, memanglah sudah tiada rasa. Biar-biarkan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Sudah lupakan
Chers auditeurs, toujours avec moi Tiwi à Voice of Indonesia sur l'onde courte de 3325 kHz. En plus de la fréquence de 3325 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voyous.id. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Bonsoir chers amis, merci d'écouter Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et les messages. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter une chanson indonésienne. Cette fois-ci, nous présenterons une chanson intitulée « Paris » ou en français mal, chantée par Marcel. Marcel Siahaan ou Marcel est chanteur solo, drameur et acteur indonésien qui a gagné en popularité depuis son duo avec Shanti grâce à une chanson intitulée « Hanya Memuji » en 2002. Le 30 septembre 2019, Marcel a publié une nouvelle chanson intitulée « Paris ». Cette chanson a été composée par Ivan Alidian, un claviériste qui accompagnait Marcel sur scène. « Paris » ou en français mal, est une chanson avec des paroles d'amour, plus précisément la trahison de l'amour qui est très pertinente pour l'histoire d'amour humain dans le monde. Avant d'écouter une chanson de Marcel, je vais saluer l'auditeur de Algérie, Nahmouji Nouari de BP1 54 bisectif 19000 Algérie. Merci de votre email envoyé le 3 octobre 2019. Et je vais également dire bonjour à Paul Jamais, Batbe, appartement 213 de la rue Saint-Poupard, 95290 Lille d'Adam, France. Merci de votre email, les rapports d'écoute envoyés le 4 octobre 2019. Merci, chers auditeurs, d'écouter Voice of Indonesia. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Chers auditeurs, merci de continuer à suivre nos programmes. Et voici une chanson intitulée Paris ou en français mal, chanté par Marcel.
Sakit ini masih jelas membiru, sisa luka darimu kini semakin terasa perih. Dulu kita berjanji tidak saling menyakiti. Dulu kita bersama meranggai semua mimpi. Dulu kita berjanji untuk setia sampai mati. Tapi ternyata ku salah, kau tak bisa ku percaya. Melihatmu bahagia, masih jelas membiru sisa luka darimu. Kini semakin terasa perih. Dulu kita berjanji tidak saling. Tapi ternyata ku salah, kau tak bisa ku percaya. Melihatmu dengannya, aku masih tak mampu. Jujur aku masih tak rela. Membiru sisa luka darimu, kini semakin terasa.
Voice of Indonesia.
Bila kau yakin itu pasti ada. masih ada.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.